Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue une nouvelle semaine dans votre émission Les Mains en Chaussures. Nous retournons à cet univers où nous aimons explorer les mouvements corporels et tous les analyses qui ont été sculptées par beaucoup de théoriciens et théoriciennes et personnes. Et particulièrement aujourd'hui, comme vous le savez déjà, c'est Laurence Loop à laquelle on dédie une bonne partie de notre intérêt comme émission. Nous revenons dans ce que nous disions de comment les gestes étaient importants, pas dans son ampleur ni dans sa nature, mais de ce qu'il engage, de ce qu'il porte de façon énergétique et qui c'est ça qui va transporter l'œil de celui qui le regarde. Donc nous continuons avec la modernité, de tout ce que la modernité a pu apporter à la danse contemporaine. Et nous centrons sur un morceau intéressant où Laban, c'est chorégraphe hongrois dont on avait déjà parlé, et rentre à porter une intention provocatrice par des sacralisés. Par une trivialité excessive, la soi-disant beauté des gestes élus. Laban cherche avec ça à justement enlever cet énorme halo qui existe de quel geste on doit choisir, quel geste est beau et quel geste l'est. Et donc cette trivialité dont on parle là, c'est un usage très singulier qui cherche justement à changer les valeurs de ce qu'on conçoit comme recevable et comme beau. Et donc là, on voit une liaison avec les postulats dada de l'époque, c'est le début du XXe siècle, donc forcément il y a une petite connexion à vouloir se révéler contre ces normes, ces dites codes sociaux qui existent à l'époque. Et bien évidemment, donc, c'est une directe dénonciation de la culture traditionnelle, une contestation qui va pouvoir coûter beaucoup quand on a le courage de contester certaines choses qui, selon les codes de l'actualité de ce moment, beaucoup de personnes ne vont pas le percevoir de bon oeil. Et c'est le cas, par exemple, de Nijinsky, qui va justement argumenter ou plutôt montrer une autre façon de bouger, une gestuelle qui va se démarquer de ce qui est recevable parmi le groupe de ce que va se reconnaître comme les danseurs. Et bien évidemment, ça va toujours dans l'art, c'est toujours une problématique qui est présente, c'est-à-dire qu'on va toujours vouloir se singulariser par rapport à un groupe, et donc ça peut donner qu'on soit reconnu ou qu'on soit reconnu fou. C'est le même cas de Mary Wigman vers 1919 et 1920, quand elle va proposer son solo, et le public allemand va le recevoir de façon négative, et il va aussi être au début être perçu comme quelqu'un qui sort de cette façon de bouger. On a appelé à son spectacle solo une frénésie maladive ou une dislocation imbécile des articulations. Il faut dire aussi que quand on voit des vidéos de Mary Wigman, on se rend compte qu'il y a quand même un intérêt par une discontinuité justement de la mécanique et de la logique du corps. Et donc c'est un intérêt qui prône un discours un peu contraire à cette fluidité qui est proposée par simple dans d'autres ballets, dans des choses beaucoup plus classiques. Et il faut avoir beaucoup de courage pour faire ce type de propositions. Et c'est grâce à ce type de visions qu'on a aujourd'hui un champ beaucoup plus élargi de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ou recevable plutôt que permis, recevable en termes de mouvement. Et ces points me semblent très, très, très importants parce que... on a souvent tendance à croire que la danse est un champ ou d'ouverture. Mais on va voir pourquoi tout à l'heure, c'est un peu le contraire. Un autre spectacle, danseuse qui berlinoise et qui a aussi allé dans ce sens, c'est Valeska Gerdt. C'est plus... du côté des cabarets, elle s'est présentée entre autres en 1931 au théâtre Champs-Élysées. Et là, on voit clairement une provocation au corps, comme si on voulait faire lui dire quelque chose au-delà de ses possibilités. Et donc, il y a toujours cette sensation de, on va faire extirper un message, on va le créer un peu de violence pour qu'il puisse nous donner quelque chose qui est enfui sous la peau et sous les articulations aux muscles. Et donc là, on voit clairement cette recherche de d'aller au-delà de ces limites, motrices qui sont souvent en jeu dans la danse. Et donc ça fait écho avec ce qu'on avait parlé de faire du corps cet outil qui nous donne des pistes et qui nous amène là où nous voulons aller. Et bien évidemment, tout ça ancré dans un contexte social de l'époque où forcément il y a une volonté de trouver dans l'individu une marque personnelle qui va le démarquer, qui va le propulser en dehors du groupe pour se distinguer ou pour s'isoler. Et donc il y a quand même une notion d'étrangeté dans tout ça, parce qu'au moment où on va chercher en dehors des codes et des normes qui sont établies ou qui sont tout simplement acceptées comme belles, comme recevables, on va chercher dans des endroits liminales, dans des espaces où notre expression n'a pas encore été explorée. Donc c'est là où on voit tout cet apport de la modernité en danse et comme une sorte d'aventure qui va proportionner des outils merveilleux pour les nouveaux chorégraphes qui vont s'emparer de cette grande catégorie de la danse contemporaine pour faire une ouverture à tous les autres mouvements, à toutes les autres possibilités qu'on n'avait pas vues jusqu'à là. On n'avait pas vu que c'était intéressant de bouger de cette façon. Et ils vont le faire, ils vont le proposer. C'est ça la grande découverte de beaucoup de ces dames. Et regardez que c'est quand même beaucoup de femmes qui sont intéressantes à regarder des comment et pourquoi. Et aussi les costumes, quand on regarde sur Internet, on trouve des costumes. Il avait pensé aussi beaucoup à Valeska, notamment. Il avait pensé beaucoup à ses costumes, à une sorte de jupe tenue par des bâtons. Et donc les bâtons, ils vont être actionnés par les bras de la danseuse. Donc ça va faire une sorte de ondulation, comme une sorte de corail, comme une sorte de créature marine, comme une créature marine qui va onduler sa surface et qui va produire des oscillations et des mouvements et des cercles, notamment des ellipses qui sont très voilà, sont très percutantes à regarder. Et c'est tout ça à partir de la pensée avec, avec le costume. Je vais retrouver mes mots aujourd'hui. Je suis un peu à l'ouest. Et donc, nous étions aussi en train de nous poser la question sur toutes ces masses de possibilités qui sont ouvertes à partir de ces recherches-là. Et comme je le disais tout à l'heure, la danse est un art restrictif. Le chorégraphe va sortir du mouvement, va extraire, va piocher dans sa réserve physique et mentale pour proposer une chorégraphie. Et donc cette chorégraphie va finir par être acceptée par un nombre de personnes, par une communauté artistique qui a une vision et qui va dire « ces mouvements-là sont beaux, on les accepte ». Donc d'une certaine façon, c'est un éventail limité. Et c'est là où, la danse elle est restrictive. Elle va dire « ceci est autorisé, ceci est beau ». Donc c'est toujours la problématique, on va dire, dialectale entre ce qui va d'un côté et ce qui vient de l'autre. Et donc c'est là où il réside le problème intéressant d'un chorégraphe, c'est qu'il va se rendre compte que ce qu'il va proposer va être établi, va être autorisé, va être une norme d'une certaine façon. Et donc comme toujours, on va toujours vouloir lutter contre la norme. C'est là où ça devient absolument passionnant entendre ce qu'ils ont à dire de chacun de ces propositions. Et on va écouter une petite note musicale et on retourne. Avec ces notes, on peut s'imaginer ce qu'on regarde dans la vidéo. C'est une danseuse qui est, c'est Marie Wigman, qui est allongée par terre et elle commence à travailler ses bras. Et petit à petit, ses bras vont appeler les torses aussi à se redresser. Mais pas dans une continuité organique, mais plutôt dans une fluctuation qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette provocation, cette désacralisation, cette désordre, une dislocation des articulations et jusqu'à ce qu'il s'est mis dans la position de debout, et c'est toujours dans un continuum qui n'est pas tout à fait la même chose que à laquelle on a été habitué jusqu'à l'époque. Et donc on est en train de dire cette idée intéressante de la grande ambivalence de la danse comme un système. C'est un système où il n'y a pas de système, sachant que le chorégraphe il va classer ces mouvements qu'il va emprunter quelque part dans son imagination ou dans sa puissance physique. Et donc ça va créer un ensemble cumulatif des règles qui vont être proposées aux spectateurs et qui vont être reçues et conçues à la fin, perçues comme autorisées, comme définies. Et donc comment sortir de cette boucle où les choses sont autorisées, donc il va falloir contraire un peu la vision ou aller contre une certaine norme qui va toujours être très compliquée à débattre. Et c'est là l'importance de toujours de proposer dans les festivals des choses qui vont toujours nous permettre de percevoir autrement notre propre corps qu'il utilise tous les jours. Un autre exemple intéressant, c'est les danses amazoniennes. Bien évidemment, ça c'est dans le registre des danses traditionnelles où on voit qu'il y a une rotation par rang et en avancée. Donc leur intérêt, c'est une danse qui s'est faite en groupe, et leur intérêt c'est de dépecer les graines dans des jardins provisoires. Et donc bien évidemment là il y a un but collectif. Donc on va déposer les graines, on va tous bouger d'une certaine façon avec cet objectif de pouvoir s'aimer dans la terre. Et donc là on voit que c'est une danse poignante et mystérieuse qui nous envoûte, certes, mais qui émotionnellement, elle perd beaucoup d'innovation. Donc c'est c'est un ensemble de personnes qui vont mouvoir notre perception, mais l'émotion, elle va rester un peu en dehors de tout ça. Donc les chorégraphes de la modernité en danse, elles vont piocher dans cette puissance de la perception des danses traditionnelles, ils vont piocher quelque chose qui va marcher, mais qui vont aussi altérer ce qu'ils sont perçus comme un manquant en termes d'émotion. Et c'est pour ça qu'on appelle l'aventure de la modernité, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une puissance quelque part, mais une débilité aussi dans ces danses collectives qu'on appelle aussi les danses savantes. Et donc là on voit la relation dont on avait parlé tout à l'heure de l'individu versus les groupes. C'est les groupes qui dominent, ou quand c'est l'individu qui se démarque du groupe pour proposer une gestuelle qui n'est pas acceptée par les groupes. Et donc là, on se pose beaucoup la question de comment trouver les mouvements qu'on n'a pas encore explorés, ce qu'on pourrait appeler les mouvements inconnus. Non, quelle stratégie utiliser pour trouver justement ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore exploré, utilisé, connu. Et je me permettrai de lire une citation. Mais la danseuse elle-même sait trop bien que sa danse, comme langue, comme ensemble cohérent et codé de référence, n'existait pas. Qu'aucun système d'articulation secondaire ne retient ce geste qu'elle va elle-même arracher à l'inconnu du corps. Donc c'est ça qui est absolument difficile à travailler, c'est qu'on va, on va chercher des pistes et des stratégies qui vont nous amener dans un endroit où nous-mêmes ne connaissons pas ni les buts, ni la finalité, ni les lieux. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va aussi, on est obligé de passer, de faire référence à Dahl Kreuz. C'est un musicien viennois qui a largement influencé les chorégraphes entre 1920 et 1930. Et Dahl Kreuz a proposé, bien évidemment, tout un système. Il y a des écoles qui utilisent son enseignement. Et donc, lui va proposer qu'à partir des ressorts du phénomène rythmique, il va tout appliquer ça au corps. Et donc, quand on dit rythmique, on dit accident, on dit contraste. Et il va piocher toute cette connaissance et la mettre au service de l'enseignement, de la pédagogie. Et donc, c'est la relation des suites motrices. Quand il s'est aperçu qu'il avait découvert quelque chose d'absolument intéressant dans cette réaction motrice, quand on fait quelque chose et ça va produire absolument quelque chose spécifique. Et donc c'est dans ce jeu des rythmes qu'il va être très très novateur dans la pensée chorégraphique. Et qui va aussi apporter beaucoup à certains chorégraphes qui vont s'inspirer de son travail. Ensuite, on revient aussi à Laban, comme toujours, qui a tellement, tellement, tellement proposé des choses. Et Laban, à la différence de Dahl Kreuz, elle va démultiplier les combinations possibles, infinies, du transfert du poids. Rappelez-vous que Laban a fait la kinésphère, c'est-à-dire cet espace des mouvements dans la position debout où la personne va traverser toutes les directions frontales, derrière, diagonales, etc. Et il va pouvoir avoir une action de transfert du poids à partir de la position debout jusqu'à un pas devant, un pas derrière, etc. Et ça a provoqué ce que je disais, des combinations infinies, donc c'est diagonale gauche ou diagonale à l'arrière droite, etc. Et donc ce n'est plus l'intérêt de la forme ostensible, c'est-à-dire de la silhouette qu'on pourrait décrire de façon caricaturale, mais ça va être l'élément le moins objectivable. Et là on revient à ce qu'on avait discuté une fois sur le poids. C'est là où il va, sa proposition elle est absolument novatrice et qui va donner beaucoup plus de possibilités d'action. Donc elle est plus bornée par les mouvements, ni par une définition, ni par une configuration, mais plutôt par cette énergie qui va être déposée d'un lieu à un autre. Un autre nom qui nous est une présence obligatoire, c'est Isadora Duncan, cette chorégraphe danseuse américaine, qui va travailler beaucoup le mouvement erratique, ces mouvements que nous portons tous, que nous utilisons tous dans nos vies, quand nous devons aller quelque part, mais on se trompe, on va ailleurs et on change de l'ordre mental et ça produit une certaine qualité qui est très très recherchée par Isadora Duncan, qui va proposer en première instance les mouvements fondamentaux qui sont le s'élever, c'est baisser, marcher, sauter, sautiller, s'allonger, tomber, piétiner et plus tard dans un autre moment s'accroupir, s'asseoir, qui vont faire partie d'une série un peu plus complexe. Donc elle va se rendre compte de quelque chose qui, que pour moi, me passionne beaucoup, c'est la conscience dès que, juste dans être debout ou s'asseoir, il y a une quantité d'informations qui sont cachées dans cet acte même et qui sont ce que nous savons de plus ancien. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est juste s'asseoir et debout, et on l'utilise tous les jours, mais on ne se rend pas compte depuis combien de siècles on fait ça, on fait cette action. Et tout ce qui est inscrit dans les os, dans la peau, en termes d'informations, dans la phylogénèse de nos comportements, c'est-à-dire dans l'histoire évolutive de nos comportements, et c'est là où on se rend compte de la puissance qui est invaluable d'un acte si simple comme s'asseoir, comme marcher. Et donc, Isadora Duncan va notamment se centrer sur la marche et comment, même dans son école, il y avait des classes entières dédiées à reprendre la marche, à savoir à connaître une connaissance, une conscience pardon, différente et, de la marche que nous faisons quotidiennement et explorer presque comme à la loupe une marche qui va dire autre chose, qui va raconter autre chose que l'identité quotidienne à laquelle elle est soumise hebdomadairement et journalièrement. Donc elle va travailler cette marche et elle va proportionner une voie de recherche sur cette connaissance enfouie, ancienne, dans notre squelette et qui va toujours nous accompagner, qu'on sache ou qu'on ne sache pas lire, elle va toujours être avec nous, elle va toujours nous accompagner et dans nos recherches et qui cache beaucoup d'informations à nous, à être explorées dans le futur. Et finalement, j'ai fini cet épisode avec deux concepts de Laban, qui sont le gathering et le scattering. Le gathering, c'est rassembler, c'est prendre, accueillir, c'est-à-dire c'est tout ce qui va prendre le sujet. Attendez, parce que je me suis perdu dans ma phrase. Et donc, c'est quand le sujet va prendre un objet et va le ramener vers le centre. C'est concentrique. Tandis que le scattering, c'est jeter, disperser et atteindre. Donc, c'est un écart entre le sujet et son objet. Et donc, dans cette façon de rationaliser des choses si simples, si archétypales, c'est ça qui a fait découvrir, qui a fait bouger le champ de chorégraphique au XXe siècle. C'est des choses toutes simples, mais qui vont nous proportionner des nouvelles façons de construire notre corps dans l'espace et de continuer à explorer ces traitements qui nous hantent tellement à nous, les personnes qui adorent les mouvements. Et donc avec ces réflexions, et j'espère que c'est bon pour vos petites têtes, vos idées, et je vous retrouve la semaine prochaine avec cette insistance chorégraphique, radiophonique. Je vous adore, prenez soin de vous, et je vous retrouve la semaine prochaine.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!